19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir, chers amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Bonsoir d'être avec nous tous les soirs. Vous savez, c'est un véritable plaisir de commenter, de décrypter, d'analyser l'actualité. Alors, au sommaire de cette émission, jusqu'à 20h, nous sommes ensemble. D'abord, vous êtes prioritaire, sachez-le, oui, plus que jamais, au 0153-48-3000, vous nous appelez. Nous reviendrons sur la situation au Proche-Orient, avec ce raid au Liban, en direction du Liban. Et on reviendra aussi sur la situation, notamment, où l'Afrique du Sud dépose, vous savez, une nouvelle requête devant le CIJ contre Israël. Nous reviendrons sur cette requête, mais également aussi sur les sujets qui ont retenu notre attention concernant la polémique avec l'hommage Banater aujourd'hui. L'hommage de Banater, votre nom sera inscrit au Panthéon. Ça, c'est une déclaration du président de la République Emmanuel Macron. Nous reviendrons aussi sur la polémique avec l'hommage à Banater, la présence des députés LFI, mais également du Rassemblement National qui ont créé la polémique. Clochette. Oui, parfois il faut respecter évidemment la volonté de la famille. Moi, si je suis la famille et qu'on ne respecte pas ma volonté, Sabrina, oui, Nourrice, je sais, vous êtes des les filles, vous allez pouvoir vous exprimer tout à l'heure, vous allez le dire. Oui, de l'autre côté, vous allez me dire, elle est où la concorde républicaine? Je l'entends, vous me la soufflez à l'oreille, là. Je l'entends, je l'ai entendu, Sabrina, je l'ai entendu. Le Conseil d'État, vous savez, qui rend, tout simplement, on va revenir sur la décision du Conseil d'État qui rend une décision historique. Clochette. Vous savez que je suis un fervent militant de la liberté d'expression, tous les soirs je le dis. Donc je peux pas être contraire dans ce que je veux faire, dans le contraire de ce que je dis. Tous les soirs, et franchement, pour ceux qui me connaissent, tous les soirs je dis, en toute liberté d'expression. On va en parler tout à l'heure. Le Conseil d'État qui rend une décision historique sur l'ARCOM de mieux contrôler la chaîne de télévision CNews, ça interroge quand même. Oui, ne me regardez pas comme ça, Sabrina, vous allez me fusiller du regard. On va s'amuser. Je pense que je vais rentrer dans le débat. Je le sens. On va s'amuser, les amis. Aïe, aïe, aïe. J'aime ça. C'est ça la radio, c'est ça le kiff. Bah oui, Sabrina, je vais pouvoir clasher avec vous. Oui, parce qu'il devait y avoir un représentant des Républicains, mais je pense que je vais le remplacer. Non, je rigole. Je rigole, chers amis.
Je rigole.
J'aurai le journaliste et ça me va très bien. Le Quoi de Neuf, c'était avec le docteur Majid Soussine. Bah oui, il va venir tout à l'heure avec son billet d'humeur. Toujours autour de l'actualité. Je suis contraint de le dire. Regardez, Sabrina, écoutez bien ce que je dis tous les soirs. Solal peut vous le confirmer, notre réalisateur. Je dis, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Compliqué.
Non, c'est pas.
Pour
si
ceux
compliqué.
Qui me connaissent et qui me suivent, je vous assure. Bah tiens, Metterfille, Stéphane. Bonsoir, Metterfille, Stéphane.
Bonsoir. Bonsoir, Berfim. Ça va?
Franchement, on se connaît depuis combien d'années? Dites-moi. On va pas se mentir.
Depuis que j'ai commencé le combat associatif dans les banlieues.
Donc ça fait 20 ans, on va dire. Plus de 20 ans.
Largement.
Quand j'étais à Génération FM, je disais déjà en toute liberté d'expression. Franchement. C'est vrai. Hein.
C'est vrai.
Mais ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très attaché à la liberté d'expression. Donc la question de CNews. Bon, bref, Stéphane Metterfille, franchement, je suis ravi de vous accueillir ce soir parce que vous êtes une personnalité engagée sur les questions des quartiers populaires. Vous êtes une personnalité engagée notamment sur plein de sujets, toutes les questions de société qui nous animent aujourd'hui. Alors ce soir, vous allez nous parler, vous savez quoi, d'un sujet, et on vous a connu aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est devenu, vous savez, ce fameux gala que vous aviez organisé cette année?
La nuit des trophées.
Vous savez que j'ai beaucoup aimé, c'est la nuit des trophées. Hein. C'était magnifique cette histoire-là, hein, en Normandie.
C'est que partie remise. La dernière, on devait faire en 2020, mais le Covid est passé par là. Et
vous allez réitérer, Stéphane Metterfille.
Oui, c'est dans nos souhaits, c'est la demande de beaucoup d'associations. Donc on va réitérer cette initiative très prochainement, j'espère.
Alors je sais que vous êtes beaucoup, merci d'être avec nous ce soir. C'est pourquoi? Parce que je sais que vous êtes beaucoup, énormément en déplacement. Vous rentrez de Chine, vous êtes en Afrique, vous êtes à la fois sur la diplomatie parallèle, mais aussi sur les questions engagées dans les quartiers populaires. Et ce soir, vous êtes avec moi et vous êtes avec nous aux informés, justement pour parler des 100 femmes d'influence. Tiens, ça concerne Sabrina Nourri, justement, parce qu'elle représente la diplomatie féminine. Alors ces 100 femmes d'influence, quand on sait aujourd'hui, d'abord avant de parler des 100 femmes d'influence, ça se passe à Dakar, ça se passe au Sénégal, et c'est un projet évidemment aujourd'hui qui va réunir qui et comment, et qui sont ces 100 femmes d'influence, justement, Stéphane Metterfille?
Dans un premier temps, je voulais d'abord rendre hommage à Sokaina qui est l'organisatrice et qui a eu l'idée de cette initiative. avec son ami d'enfance qui s'appelle Nanou, m'ont consulté pour justement les accompagner sur cette première initiative des 100 femmes d'influence d'Afrique. Donc c'est une très belle initiative et il y a différents invités. Donc je dis déjà qu'il y aura Yamina Benguigui, il y aura différentes personnalités de différents pays d'Afrique. C'est l'Afrique en général. C'est pas que l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord ou l'Afrique centrale. C'est une personnalité à peu près par pays qui seront présentes, des entrepreneuses, des personnes qui ont une vision de l'Afrique, qui ont travaillé et qui tirent l'Afrique vers le haut.
Et c'est la question justement aujourd'hui. Tirer l'Afrique vers le haut, l'Afrique on le sait, le continent qui est en croissance et qui connaît une ascension fulgurante depuis quand on parle de l'économie. Justement, vous savez, il y a une question aujourd'hui qui turlupine beaucoup de nos quartiers populaires. Beaucoup, vous avez parlé d'entreprendre, et notamment des jeunes, diplômés ou pas d'ailleurs, se sont barrés en Afrique justement pour tenter l'aventure d'entreprendre. Beaucoup, hein, j'ai beaucoup d'exemples hein, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Beaucoup ont décidé. C'est quoi la raison aujourd'hui qui les pousse à quitter la France, à quitter l'Europe pour aller tenter cette aventure économique d'entrepreneuriat en Afrique? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a ce fameux plafond de verre qui plane en permanence?
Tout à fait. Je reviens au rapport qu'on a rendu avec Claude Bébéard sur les questions des entreprises aux couleurs de la France. On a fait tout un cheminement dans nos quartiers pendant toutes ces années-là. Un rapport qui a été rendu. Et on se rend compte que ce rapport dit une réalité, tout simplement. C'est que ce plafond de verre existe. Et existera toujours ici en France. C'est pour ça que la plupart de nos jeunes talents, ils reviennent dans leur pays d'origine, créent une économie, se créent aussi eux-mêmes une autre façon de s'en sortir et reviennent sur le continent avec déjà plus zen, plus tranquille, plus reposé, avec un autre regard de la France. Et c'est la raison pourquoi la France, notre pays d'origine, nous laisse échapper la plupart de ses talents.
Justement, laisser, vous l'avez dit, vous avez lâché le mot qui fâche, laisser s'échapper les talents. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la France? Ou est-ce qu'elle n'a pas le choix, la France? Ou est-ce qu'elle n'a pas le choix, la France? Ça lui échappe.
Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux, parce que le problème, c'est que même si des jeunes qui talentueux, qui ont les diplômes et autres, à un moment donné, dans des grandes sociétés, même françaises, stagnent à leur poste. C'est-à-dire que c'est une autre personne qui va passer avant lui, même si lui, il mérite la place. C'est le débat, c'est pour ça que le débat, il est un peu compliqué à ce niveau-là. Et à un moment donné, c'est aussi de revenir à ses racines et puis vivre une autre qualité de vie aussi. On a une autre qualité de vie.
Alors justement, la diaspora s'organise aujourd'hui. La diaspora s'organise, hein, la diaspora franco-africaine s'organise. Et vous avez parlé de ces 100 femmes d'influence. C'est organisé, me semble-t-il, très prochainement à Dakar, vous l'avez dit tout à l'heure.
Le 8 mars.
Le 8 mars précisément. Alors, justement, vous avez cité les quelques personnalités qui seront présentes. Il va y avoir une série de remises de prix hein, pour les entrepreneurs femmes. Hein, en herbe, c'est en herbe, me semble-t-il. C'est-à-dire que là, vous avez décidé d'encourager et de développer justement ces futurs, peut-être, grands chefs d'entreprise.
Exactement. C'est non seulement il y aura des tables rondes pour débattre des parcours de chacun, des échanges et autres, et une remise de prix de différentes personnalités qui seront présentes. Je sais que ce sera animé par votre collègue Alicia Fall, qui est aussi un grand talent français, qui sera présente aussi pour animer ces tables rondes et ce débat. Je pense que c'est aussi de donner un peu de lumière, même si ça part du continent africain. Pour une deuxième édition, on est déjà à la deuxième édition de l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, on a contacté différentes personnalités, différentes entrepreneuses. C'est pas parce qu'elles ne sont pas connues qu'elles ne sont pas influentes. C'est important. L'influence, il y a aussi l'influence de l'ombre, il y a l'influence de l'action, il y a l'influence aussi parce que, à un moment donné, quand tu as une personnalité avec les médias autour de toi où tu peux parler, où tu as eu un ancien poste de ministre ou autre, quand tu es présente, c'est aussi donner de la lumière aux autres personnes qui se battent et qui ont prouvé que leur place elle sera là le 8 mars à Dakar.
Alors justement, rendez-vous à ne pas manquer. Stéphane Métarfi, enfin, vous, personnalité engagée dans les quartiers populaires, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous savez, à celles et ceux qui aujourd'hui hésitent encore justement d'aller tenter l'aventure à l'étranger, que ce soit en Afrique ou d'ailleurs en Asie ou ailleurs dans le monde, hein, aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez envie de leur livrer peut-être comme conseil, Stéphane Méterfi?
Alors, moi, le premier conseil, là, comme vous disiez, je reviens d'une délégation française, on est parti en Chine là, pendant 10 jours. Entre deux, j'étais reçu aux États-Unis. Je suis souvent en Afrique, je repars là prochainement. Et c'est vrai que l'image de la France en a pris un coup. On a pris un coup à différents niveaux. Moi, je dis juste, avant, on était fiers, et on est toujours fiers d'être français, mais on était fiers d'être français quand on était à l'extérieur. Aujourd'hui, tu vas en Afrique, t'es français, t'as plus la même image qu'avant.
T'as plus la même image qu'avant. C'est important ce que vous êtes en train de me dire. Ouais, ça n'a plus le même impact, ça n'a plus la même image qu'avant.
On n'a plus la même influence, justement. On n'a plus la même influence qu'on avait. Et
la France a perdu de son influence.
La France a beaucoup perdu de cette influence, et heureusement que la diaspora s'organise. Heureusement que ces talents font vivre cette, entre guillemets pour moi, cette diplomatie parallèle qui fait qu'on est, on est quand même fiers d'être français, quoi qu'il arrive, puisque le seul conseil que je peux donner, c'est façon de parler, c'est réussir là où tu as envie de réussir. Si ici en France tu peux pas réussir, et tu peux réussir au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au fin fond d'un pays tel qu'il soit, hein, que ce soit au Canada, que ce soit en Belgique ou autre, le principal c'est d'être fier de tes racines, d'être fier d'où tu viens. Et de ne pas oublier de faire passer le message aux plus jeunes qui arrivent derrière, à l'autre génération. Ouais. Parce qu'en fait, le plus dur aujourd'hui, c'est l'autre génération. Notre génération à nous, on a une conscience politique de tout ça. Cette génération d'aujourd'hui n'a plus cette même conscience.
Vous avez raison.
C'est ce qui m'inquiète le plus.
J'aime beaucoup ce discours. J'aime beaucoup, vraiment. Vous avez complètement raison. Vous avez assez bien résumé, l'état d'esprit en ce moment dans l'Hexagone. C'est vrai. Bravo, mon cher Stéphane Méterfi. Hein. Bravo.
Merci.
Bravo. Donc, le rendez-vous est donné le 8 mars pour le trophée des 100 femmes les plus influentes.
Tout à fait. Et appelez quand vous voulez. Venez. Il n'y a aucun problème. Tout se passe bien dans la bonne humeur.
Il y a un site internet, j'imagine, non?
Oui, un site internet. Oui. Je vais vous l'envoyer, parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux.
Je crois que je l'ai sous les yeux.
Vous l'avez, je crois. Je vous l'ai donné. Ouais,
non, mais je l'ai. Je vais le communiquer. Je vais tout communiquer. Tout et en tout cas, concernant évidemment vos conseils, je crois qu'on va les enregistrer sérieusement.
Et j'espère, enfin, bon, je ne vais pas faire de polémique, mais.
Pourquoi?
Traversons l'Afrique. On attend un grand homme dans les futures présidentielles de chez nous.
Ouais.
C'est important d'avoir quelqu'un qui a l'image et l'incarnation de cette France qu'on a perdue. Je pense que c'est important. On se loue pas non plus là-dessus.
Évidemment.
Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Bah écoutez,
je reste neutre sur la question, mais je dis que c'est hyper important parce que l'influence commence aussi
par les relations extérieures.
La maison LDK, hein, on est d'accord. Voilà.
Oui.
Vous avez tous les renseignements sur la maison LDK.
Bon,
absolument. Merci Stéphane Méterfi et bon
merci
courage à vous.
Merci.
À bientôt. Au plaisir, mon cher Stéphane Méterfi. Il a raison, mais Stéphane, vous avez vu, hein. Que dire après cette belle phrase, rien à dire. Messieurs, madame, nous allons nous retrouver juste après cette première pause qui va nous permettre de mettre les pieds dans le plat. Nous allons parler de cet hommage rendu à Robert Badinter. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et c'est parti tout de suite, 19h17, le face-à-face, chers amis.
Les informés. Le face-à-face.
Avec Sabrina Nouri, bonjour, qui représente LFI, mais pas que. Et elle représente aussi parce qu'elle est présidente fondatrice de Diplomatie Féminine. Bonsoir Sabrina, je sens que ça va être animé ce soir.
Ah bah, c'est vous qui le dites, moi je...
Oui.
Bonsoir à toutes et à tous.
Jimmy Dalidou, représentant syndical, mais également aussi auteur. Bonsoir Jimmy.
Bonsoir
Dalidou.
À tous. En parlant de gente féminine,
oui.
La CGT organise une grève féministe le 8 mars.
Bah oui.
Grève féministe le 8 mars.
Bravo. Voilà. Vous avez les félicitations de Sabrina Nouri. C'est bien, non?
Bah écoutez, vous c'est cool,
ouais, non mais attendez, il n'y a pas que la CGT, il y a tout un collectif d'associations.
Oui.
Mon association, bien sûr, appelle à la grève le 8 mars.
Guillaume de Souy,
c'est tout à fait normal.
Guillaume de Souy, il est humaniste, il est pacifiste, il est élu à sur la ville de Villejuif, il est aussi
artiste.
Artiste, oui, voilà, se chercher.
Artiste.
Comment ça
peintre.
Va, mon cher Guillaume?
Très bien. Et le mouvement de la paix appelle à la grève le 8
vous
mars.
Vous étiez en manif tout à l'heure?
J'étais devant le ministère des Affaires étrangères, comme Sabrina d'ailleurs.
Ouais, vous étiez ensemble?
Non, mais elle m'a dit que.
On n'était pas ensemble, mais on était au
passée.
Rassemblement pour un cessez-le-feu pour la Palestine.
Il y avait du monde, une foule importante et,
très
et,
importante.
Et une foule énergique qui disait que la lutte des Palestiniens est juste.
Sabrina, oui.
Oh bah là, il est plus que temps, il est plus que nécessaire d'arrêter ce massacre. Et je pense que un rassemblement de grande ampleur devrait être organisé. Et il faut continuer à réclamer ce cessez-le-feu à tout prix.
On en parle tout à l'heure, y compris avec nos auditeurs 01 53 48 3000. Je voudrais qu'on parle de cet hommage. Hommage rendu à Robert Badinter avec le nom qui sera inscrit au poteau. Ça, c'est pour moi qui le dis, c'est le président de la République. Alors justement, j'aimerais, avant de parler de cet hommage, revenir sur la polémique de la présence des députés LFI, mais également ceux du Rassemblement National. La famille de Robert Badinter, c'est elle qui ne souhaitait pas la présence du RN ou des LFI. Je sais que ça vous fait bondir et ça vous fait hurler. Oui. Alors, prenez la parole, tiens, Sabrina Nouri.
Mais attendez, c'est une polémique sur une polémique. Nous sommes dans un rassemblement national. Le président de la République a invité l'ensemble des partis politiques qui représentent la nation. Nous, enfin, la France Insoumise, en tout cas, a répondu avec Caroline Fiat et Éric Coquerel, qui sont tous les deux, donc pour l'une présidente, vice-présidente de l'Assemblée et l'autre président d'une commission, la commission des finances. Ils ont répondu à cet hommage, ils ont assisté à cet hommage, et il faut, même si on a de la compassion et on déclare nos condoléances aux familles, ça reste quand bien même des hommages.
Alors certains vous reprochent justement de ne pas respecter le souhait de la famille de Robert Badinter.
Alors c'est pas une question de ne pas respecter le souhait de la famille. Ce n'est pas un enterrement, ce n'est pas une cérémonie privée. Ça reste un hommage national. Donc il faut que les familles comprennent que on ne peut pas écarter tout un pan de la nation sur des hommages nationaux, tout simplement. Après, au niveau privé, s'ils veulent pas de ni la France Insoumise, ni le Rassemblement National, ni Pierre, Paul ou Jacques, ça reste dans le domaine privé. Là, on respecte effectivement la volonté de la famille, mais pour un hommage national, on respecte les institutions.
Alors, respecter les institutions, tout à fait Guillaume
d'accord.
De Souy.
Tout à fait d'accord, et je suis assez étonné que la famille de Robert Badinter...
Et pourtant, ils sont indésirables.
Indésirables
par l'histoire, indésirables parce qu'ils ont tenu des propos, indésirables parce que justement, etc., etc.
Et franchement, au regard de tout ce qu'on a pu apporter ces derniers jours des discours de Robert Badinter, de la façon dont il a pris position sur notamment l'abolition de la peine de mort, mais en réalité pour la Déclaration universelle des droits humains et notamment pour le droit à la vie, puisque c'était la motivation qui pour lui justifiait l'abolition. Je suis très étonné. Je retiens des hommages multiples qui ont eu lieu depuis sa mort, notamment une interview qu'il avait fait, une des dernières au quotidien, où il avait expliqué cela, que ce qui pour lui primait, c'était le droit à la vie, et il avait notamment dit que ce droit à la vie, il allait avec la possibilité de réinsertion. Moi, j'ai du mal à croire que le Rassemblement National soit capable de s'insérer dans la vie publique avec sincérité et avec des vraies valeurs humanistes et des vraies valeurs en lien avec le socle de la communauté internationale, bref, l'amitié des peuples. Par contre, je suis sûr que la France insoumise est dans cette veine, et je peux pas entendre que le débat soit à ce point polarisé en France qu'on torde les choses et que dans l'émotion la famille de ce grand homme fasse un cas si énorme de la présence de la France insoumise.
On reviendra aussi sur
d'autant que sur le RN,
il y a
à dire
le Panthéon,
que le président de la République depuis maintenant une semaine,
ils n'étaient pas présents.
Ne cesse de nous dire
par
que
exemple,
tout,
le RN
tout
n'était
va bien.
Pas présent. Ils n'étaient pas présents le RN.
Écoutez, ils ont pris leur décision. La France Insoumise a pris ses responsabilités. Point. Enfin, je veux dire, je vois pas où est la polémique.
Ils ne pouvaient pas être présents parce que eux, ils sont contre l'abolition de la peine de mort. Ils veulent la rétablir.
Il y a pas que ça. Alors, deux choses. Oui, d'abord, oui, effectivement, à partir du moment où vous mettrez en application un hommage national, c'est logique que toutes les forces de la nation puissent rendre hommage à un homme, qu'on soit d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, hein. Ou alors vous faites ça dans un club privé. Mais je pense que ça, c'est pas le... Moi, ce qui me gêne, enfin, indépendamment, je parlerai uniquement du personnage politique. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, du personnage politique, des décisions qu'il a prises. Moi, je vois quand même une contradiction qui me gêne dans le personnage.
Laquelle ? Ou lesquelles ?
Parce que, à un moment, il faut arrêter aussi l'hypocrisie. Il y a deux questions que je me pose. La première, c'est sa position en décembre 2019. Vous vous rappellerez, on est en décembre 2019, bien après les accords d'Oslo, qui étaient d'ailleurs inopérants. Et on sait que M. Badinter avait, devant la CPI, la Cour pénale internationale, avait défendu le gouvernement israélien. Et il avait clairement dit qu'en fait, l'État, la Palestine n'était pas un État, en reprenant certains articles, etc., etc. Alors qu'on sait que plus de 138 États avaient clairement affirmé la Palestine comme un État. Ça, c'est la première position politique qu'il a prise et qui n'est pas acceptable. La deuxième position qu'il avait prise, Monsieur Badinter, a été faite en 1975, lorsqu'il s'est opposé à la résolution 242 des Nations Unies. Et elle disait quoi, la résolution 242? Elle posait deux obligations. Première obligation, retrait des forces israéliennes du territoire occupé palestinien. Point barre. Deuxième résolution, reconnaissance des deux États souverains et paix, qu'on arrête cette colonisation de la Palestine par le gouvernement israélien. Alors moi j'aimerais bien qu'on se dise...
Après, ouais, il s'est battu aussi. Mais vous manquez de dire aussi quand même tout de même que Robert Badinter s'est battu aussi
du côté politiques, même si
de l'injustice,
même si elles sont gênantes. Toutes les questions politiques. Oui, mais attendez, mais sinon il faut
être clair. Soutenu.
Ouais, non, mais il faut être clair à tous les niveaux. On peut pas tenir, même par rapport à les filles, on peut pas tenir une position qui consiste à dire effectivement une position qui est nécessaire en disant moi je soutiens, et c'est mon cas, je soutiens l'héroïque résistance palestinienne face au gouvernement génocidaire israélien, mais en même temps rendre hommage à un homme qui malheureusement force est de constater qu'il avait pris des positions politiques qui étaient anti-palestiniennes.
Je ne suis pas si sûr que ça passe. Je suis pas sûr. Vraiment, je ne
sais pas.
Quand on
regarde
les
Je n'invente rien.
Ça reste quand même un homme politique de droite.
Je ne suis pas d'accord, mais bon.
Ça reste quand même un homme politique de droite, de justice, qui a emmené l'abolition de la peine de mort.
Et puis même qui a défendu les Palestiniens à un moment aussi.
J'entends ce que tu dis, mais voilà, l'hommage aujourd'hui, il a été fait sur...
Il y a aussi des Français qui ne sont pas forcément contre l'abolition de la peine de mort.
C'est un débat politique, mais là, on est
on est face à un hommage pour un homme qui a eu des discours extrêmement exemplaires sur l'humanité, l'humanisme. Bon, après,
justement, si on fait des discours sur l'humanité, sur l'humanisme, en position contre le gouvernement israélien qui colonise la Palestine. Ah oui, il y a quand même une résolution de 242 qui a été mis en exergue.
Jimmy, tu n'ignores pas que les juristes sont très sourcilleux avec le droit et parfois ils sont amenés à prendre des positions qui sont sur la lecture du droit, sur la dynamique propre du droit.
On n'a pas forcément la même vision du droit.
Et qui, pour le profane, sont compliqués à comprendre. Après, moi, je ne connais pas du tout les deux exemples que tu viens de citer, mais je sais que M. Badinter a pris des positions auprès du collectif national pour une paix juste et durable.
On n'a certainement pas la même définition du droit. Tu sais bien que souvent, le droit devient un cadre formel qui permet de bloquer une opposition politique. Ouais, on l'a vu plusieurs fois, le droit, c'est un objet sur le terrain international, et conquérir des droits, ça a été
tout l'objet de sa vie à travers notamment l'abolition de la peine de mort.
Sabrina Loury.
Mais là, sur les événements récents qui se sont passés, donc à partir du 7 octobre, il s'est quand même, malgré sa fatigue, il s'est quand même prononcé. Il a dénoncé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas changé d'idée ensuite.
Non, il a quand même dénoncé ouvertement.
C'est une contradiction entre le personnage qui met en avant.
Là, tu avances quelque chose qui, quand même, il y a plein d'éléments qui peuvent contredire.
Dans ce cas-là, il faut que cette logique qui consiste à dire qu'il a été un grand homme politique qui se substituerait à ses positions politiques passées et qui sont des erreurs. Dans ce cas, cette logique doit fonctionner à tous les niveaux, pour tous les hommes politiques.
Je vous promets,
voyez,
il y a beaucoup
de on peut pas cibler comme ça en disant oui, bah lui c'est pas grave, et puis l'autre c'est pas, l'autre c'est grave.
Non. Enfin bref, monsieur et madame, le président de la République, oui, je pense aussi, mais bon, aussi. Alors l'hommage national, l'hommage à monsieur Robert Badinter, justement, inscrire au Panthéon. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Sabrina Nouri? Oui. Non.
Pour le geste sur l'abolition de la peine de mort, moi je pense que oui, il a toute sa place au Panthéon. Ensuite, bien sûr, ça sera le président qui l'annoncera. Et d'ailleurs, je pense qu'il a commencé à l'annoncer aujourd'hui. Il souhaite l'inscrire au Panthéon.
Oui. Bien. Moi je pense que c'est aussi compliqué pour le président actuel que de panthéoniser Manouchian. Il le fait. Mais il a pas peur du grand écart. Je veux dire, il fait la loi immigration en décembre et il panthéonise Manouchian en février. Il va faire quoi? Il va panthéoniser Badinter en 2025, juste
Macron,
après avoir rétabli la peine de mort. Non mais qu'est-ce que c'est que ce président?
Non, mais Macron, c'est pas une cohérence. On sait très bien qu'il fait du matin au soir ça. Ça prend des décisions.
Badinter
comme ça,
n'a cessé de parler de dignité humaine.
Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il
fait. Le président n'en a pas parlé une seule seconde dans sa conférence de presse.
Mais ça serait bien qu'il mette plus de femmes aussi au Panthéon.
Je pense que ça, de toute façon, c'est une décision politique. On verra bien ce qui se passera. Après, de toute façon, je pense qu'aussi, à un moment, oui, je suis d'accord sur le fait que M. Macron est loin d'un homme politique. Il ressemble plutôt à un banquier fanatique qui est en contradiction dans ses décisions.
La France comme une entreprise, malheureusement,
la France est devenue un porte-monnaie assez ouvert pour multinationales depuis 2017. Elle est là, la réalité.
La réalité, c'est pas ça, mais bon.
Si, c'est exactement ça.
01 53 48 3000, vous pouvez réagir, les amis auditeurs, partout en France, justement, venez en parler. On va parler justement du conflit israélo-palestinien avec l'armée israélienne qui annonce avoir lancé des raids aériens sur le Liban. Mais surtout, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud qui dépose une nouvelle requête devant la CIJ, justement, contre Israël. On en parle parce que c'est très important, on fera un tour de table, mais surtout, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. À tout de suite, nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés, on vous attend. C'est parti. Vous savez quoi? Fameux jingle. Les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je voudrais vous entendre partout en France. Venez réagir et commenter justement l'actualité concernant la guerre à Gaza, mais notamment avec l'Afrique du Sud qui dépose une nouvelle requête devant la CIJ. Est-ce qu'ils ont raison de redéposer une nouvelle requête? Est-ce que c'est justifié? Je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Je vous ai entendu en sourdine dire bien sûr.
Bien sûr.
Pour quelle raison?
Bien sûr que c'est justifié. Il faut faire l'histoire dans ce sens. Vous aviez reçu un juriste français qui coordonnait un collectif de juristes qui disait que la Palestine avait besoin de soldats du droit. La Palestine a besoin de faire reconnaître que sa cause est juste et que la façon dont Israël se positionne, enclenche une logistique, un rouleau compresseur de guerre inadmissible et insupportable et doit cesser tout de suite. Moi, petite anecdote. Hier, je regardais un épisode de The Crown, justement sur le moment où la reine prend position sur l'Afrique du Sud et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et on voit des images de répression
Le fait que l'Afrique du Sud, on connaît son engagement, on connaît son histoire et tout, c'est effectivement lié à Nelson Mandela et à tout cela. Mais je pose quand même tout de même la question, est-ce que vous pensez que ça aura le même impact que la première requête? Parce que là, finalement, est-ce que l'Afrique du Sud... Je me pose la question parfois de façon crue, mais est-ce qu'elle ne veut pas simplement exister dans l'échiquier, là, justement,
géopolitique? Il faut faire entendre une alternative. Nous, en intervention civile de paix, on fait souvent des médiations sur les anciens terrains de conflit. Et la première chose que disent les victimes, c'est qu'elles attendent une réparation, dit Bourreau. Les Israéliens aient une dynamique de conflit avec les Palestiniens, c'est le problème.
Sabrina.
On parlait tout à l'heure.
Ça dit une dynamique génocidarium,
La Cour internationale de justice a dit, il faut poser les mots clairement. Il faut expliquer aussi aux gens comment ça fonctionne.
Parce que j'avais un problème avec votre micro, je sais pas,
d'accord.
Le son est bizarre.
La Cour internationale de justice, on l'a déjà dit la dernière fois quand on avait commenté la première fois, c'est qu'elle n'est pas compétente pour exiger un cessez-le-feu ou un arrêt immédiat des bombardements militaires. D'accord ? Elle n'est pas compétente. Elle est compétente à établir des faits pour savoir si, oui ou non, il y a un risque de génocide en cours. Ce qu'elle a établi, puisque sur les 5 éléments qu'il fallait pour établir s'il y avait un génocide en cours ou pas, elle en a compté 4. C'est énorme. 4. Donc c'est en cours. Là, l'Afrique du Sud a déposé une nouvelle requête. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a un risque génocidaire. Il y a 4 éléments sur 5 qui disent que c'est le cas. Donc, que fait la communauté internationale?
Mais c'est pas seulement un risque, ça va.
Oui, là, c'est en cours. Moi, je dis qu'il y a un génocide, un point. Moi, je vais pas aller au-delà. Mais que fait la communauté internationale? Là, aujourd'hui, que font les pays qui regardent, qui assistent à ce massacre?
Les États-Unis se sont exprimés.
Il y a des sanctions.
Il y a des sanctions. S'est exprimé. Ils appellent justement.
Tout comme la Russie, nous pouvons prendre des sanctions envers Israël. Fin des ventes d'armes, déjà. Résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Des sanctions économiques. Soutien plus clair, en tout cas sur l'UNRWA, il faudra continuer en tout cas de verser ce qu'on donne par solidarité sur cette organisation qui, je rappelle, est en très très mauvaise, vraiment, c'est ce qui se passe là-bas, c'est terrible, la faim, le manque de médicaments, etc. Bon, on va pas revenir sur tout ce qui se passe, les gens regardent sur les réseaux sociaux.
Je sais que le président de la République, Emmanuel Macron, se bat.
L'UNRWA est la seule organisation internationale.
Il lui a dit stop.
Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant engager des sanctions. Ça suffit de dire
c'est horrible.
Mais où est la France? Où est la France depuis 7 octobre?
Écoutez, deux choses. La première, c'est que la CIJ, il faut prendre tout ce qui peut être pris, mais il faut pas se leurrer. La CIJ n'est pas une fin, c'est un moyen, c'est une position morale, c'est une base morale. Mais il faut, la CIJ a nié dans la décision qu'elle a prise la première fois, elle a dit qu'il fallait éviter un risque de génocide. Il n'y a pas de risque de génocide, il y a un génocide qui est en cours, qui est à un stade avancé. C'est comme si que vous disiez tu ne renverseras pas ton verre d'eau alors que vous avez déjà renversé une trentaine de verres d'eau. Ça, c'est une négation des faits. Donc, il y a un génocide qui est en cours, qui est organisé par un gouvernement d'extrême droite, le gouvernement de Monsieur Netanyahou, qui est un gouvernement criminel, qui ont décidé de se débarrasser de l'héroïque peuple palestinien qui se défend comme il peut. Et la CIJ, et c'est une base morale, mais uniquement une base morale. Là, la position militaire, financière, politique, etc., qui permettrait d'arrêter ce génocide, elle est internationale. Moi, ce que je trouve ça dommage, et c'est inadmissible, qu'à la dernière résolution de l'ONU, la plupart des pays, France incluse, effectivement, ont voté pour le cessez-le-feu immédiat. Vous avez un clampin dans la salle qui a levé la main, représentant de l'impérialisme nord-américain, et il a shoté tout le monde.
Alors,
ça, c'est
Guillaume,
inadmissible, on ne devrait pas l'accepter.
Guillaume de Souy.
Oui.
Guillaume.
Je faisais mon anecdote et je disais dans cet épisode, Margaret Thatcher dit je ne me positionnerai pas contre l'Afrique du Sud pour des raisons économiques, pour mon marché intérieur. Mais monsieur Macron, il semble faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il continue de reconnaître monsieur Netanyahou comme un interlocuteur.
Premier ministre, donc il est obligé de discuter avec lui.
Alors qu'il
ça s'appelle de la diplomatie.
Il devrait dire que ce n'est plus un interlocuteur, bon, puisque c'est
très,
un génocidaire, et faire une diplomatie alternative. La France a les moyens de faire une diplomatie alternative, de ne s'adresser qu'aux États-Unis et de leur dire « Vous arrêtez vos livraisons d'armes demain » et ne plus parler à ce pouvoir qui, de toute façon, ne participe pas à la solution, puisqu'il bloque tout.
Mais la diplomatie n'est qu'apparavant.
Au niveau de la diplomatie, nous avons toujours, normalement, maintenant, eu une politique sur laquelle nous sommes non alignés. Ça veut dire ni pour l'un, ni pour l'autre. On voit l'état de ce qui se passe et nous, notre positionnement est non aligné. Ça, ce n'est pas nouveau. D'accord, mais aujourd'hui, avec un soutien inconditionnel à l'État d'Israël qui a été, je vous rappelle, promulgué par la présidente de l'Assemblée nationale, qui a déclaré à l'Assemblée nationale que c'était un soutien inconditionnel à Israël. Aujourd'hui, maintenant, il est difficile de faire marche arrière, mais il va falloir, parce que aujourd'hui, on ne peut pas laisser le gouvernement d'extrême droite suprémaciste, d'extrême droite israélien, établir un massacre sans précédent sur les Palestiniens.
Pas d'accord avec vous deux, Guillaume et Sabrina, c'est que je ne pense pas que le gouvernement français soit si autant non aligné que ça, parce que si vous analysez la configuration géopolitique et géostratégique mondiale, et le fait que le monde devient un monde multipolaire avec deux blocs Est et Ouest qui se dessinent, et lorsque on prend conscience que le bloc du nouveau monde à l'Est met en avant des accords de marché dédollarisés, on a très vite compris que notre pays, qui malheureusement est totalement subordonné à l'impérialisme nord-américain, c'est pas dans son intérêt d'arrêter la guerre en Palestine. Ils ont très bien compris qu'il fallait se positionner soit à l'Est, soit à l'Ouest.
Allez messieurs, vous savez quoi, il est 19h45, je laisserai le soin aussi à nos auditeurs de venir commenter cette actualité. 01 53 48 3000. Autre sujet, virgule. Le Conseil d'État rend une décision historique, oui, historique, en demandant à l'ARCOM de mieux contrôler la chaîne de télévision. Devinez qui ?
CNews. CNews.
Alors, ça débat. Ouais, toutes les stars, toutes les têtes d'affiche de CNews se sont montées au créneau depuis ce matin pour faire part de leur mécontentement. Et oui, ça tient la route. Hein. Ils ont raison. En tout cas, ils défendent. Mais ça veut dire quoi, mieux contrôler la chaîne d'information ? Alors, je vous écoute, on fait un tour de table.
Je t'ai entendu en début d'émission dire en toute liberté d'expression.
Oui.
Et franchement, la liberté d'expression, elle est dans les objectifs de la communauté internationale. Elle est définie comme un socle de l'humanisme. Et moi, je serais pour. Sauf que on a une sphère médiatique qui a
rêvé... Chloé Lebec a une chaîne, moi, ça me dérange. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais on en discutait avec Jimmy.
C'est comme si demain, on dit, FM pose problème, là, voilà vous.
RT,
vous avez un parti pris, donc on lui a
cloué le bec. Ouais. Pour moi, Pascal Pro n'est pas un journaliste d'opinion. C'est un journaliste propagandiste. Et CNews n'est pas une télévision comme les autres, c'est une télévision qui fait la propagande d'une déshumanisation de la société. Et là, il y a un vrai sujet. Et je suis désolé,
il y a des sanctions qui sont méritées, des suspensions qui sont méritées. Moi, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait et d'accepter. Moi, je suis complètement d'accord sur la liberté d'expression. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais quand vous voyez une chaîne comme donc CNews qui se fait alpaguer par l'ARCOM, donc quand même, c'est pas rien.
Rappelons quand même que l'ARCOM, celui qui est à la tête, le président lui-même, avait fait un bilan en considérant que CNews remplit toutes les cases.
C'est ça. Non, mais là c'est pas le cas. Vous avez ces dernières semaines et ces derniers mois, donc à partir du 7 octobre, n'est-ce pas ? Vous avez quand même des intervenants, des intervenantes qui viennent faire l'apologie de limite du terrorisme et qui viennent dire non mais on a des images, on a des interviews, on a des émissions, Adil, bon, on vous les donnera si vous voulez, mais ce sont des personnes qui disent clairement
ceux qui ont dit qu'il faut raser Gaza,
et puis Meyer Habib, on l'invite à toutes les sauces dans toutes les émissions, c'est pareil,
il fait le tour des médias, lui,
bah oui, il fait le tour des médias pour faire sa propre publicité, mais à partir du moment quand on prend la propagande israélienne et qu'on la diffuse sans filtre, sans moyen de contrôler tout ça en direct comme ça sur CNews, bah à un moment on se fait contre, bah à un moment on se fait épingler.
On peut parler de
déshumanisation. On se fait épingler. On peut pas faire la propagande.
Ça pas été pour interdire Goebbels, par exemple.
On peut pas faire la propagande.
J'ai toujours été con. Je considérais que ça me gêne de clouer le bec à un média. Clouer le bec, c'est comme si demain par la même on dit.
Non, mais attendez, vous dites
ça nous dérange. Par exemple, là, ce qu'on se dit, ça nous dérange, on cloue le bec.
On cloue pas le bec. Non, mais on dit à CNews de faire plus attention
le problème qui se pose, c'est
sur
que
les intervenants, le sur problème, les intervenants, le sur le qui... contenu des émissions. Ouais,
non, mais le problème
tout.
Qui se pose, c'est que la liberté Jimmy. D'expression, elle est conditionnée par un véritable débat et la véritable contradiction. On voit que CNews a invité ces derniers temps des gens qui ont fait l'apologie du génocide organisé par le gouvernement israélien. Oula, c'est inacceptable.
Oula,
et ils n'ont pas,
enfin,
pas organisé de véritable débat. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a que des invités d'extrême droite, qui sont invités. Il n'y a pas de contradiction de débat.
Donc vous parlez de pluralisme.
Non, mais qui
vous parlez de pluralisme.
Que CNews le
prouve.
Non, on parle
vous
de
démocratie.
Vous parlez de
liberté d'expression.
Là, vous parlez de pluralisme, c'est-à-dire que toutes les voix doivent être entendues.
Il y a aussi un problème de déontologie. Je le redis, la dignité.
Mais ça s'appelle l'île éditoriale.
La dignité
si la
humaine.
Non, c'est ce que j'appelle de l'agitation propagande.
Une ligne éditoriale du tout sur cette chaîne, moi.
Une
savez,
ligne éditoriale,
dire,
ça peut pas
je
être.
Le dis, je le dis simplement. Je le dis. Non, arrêtez de dire ça. Moi, je le dis simplement parce que voilà, ça me pose problème quand on parle toujours de clouer le bec à un média. Voilà.
La ligne éditoriale
quand
dans tous les médias.
Quand on se fait insulter d'antisémites
sur
des plateaux. C'est
la dignité humaine. Et de ce point de vue-là, CNews passe la frontière tous les jours. Et je le dis, il y avait avant le remaniement une ministre de la Culture, qui moi en tant qu'artiste me satisfaisait pas sur un certain nombre de points, mais qui avait lancé les fameux états généraux des médias et de l'information. Madame Rachida Dati est aujourd'hui en charge ministre, elle ne parle pas du tout de ses travaux.
Elle va peut-être en parler.
Elle est amie, connue et reconnue de Monsieur Bolloré. Que va-t-elle faire sur la question de la déontologie?
Parce que. Vous savez quoi? J'ai lancé l'invitation. J'ai lancé l'invitation auprès de Madame la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, évidemment, et sur le principe, je pense qu'ils sont d'accord, mais elle viendra ici et elle répondra à toutes ces questions-là. Vous avez raison.
Je serais ravi d'être là aussi.
Allez, tout de suite, pour pas que. On est dans les clous, là. Très bien. À l'heure et tout. Nickel. Le quoi de neuf?
Les informés. Le quoi de neuf?
Le quoi de neuf, ça y est, chaque mercredi, c'est avec le docteur Majid Seoussine. Ah, je sais que vous l'aimez bien, Guillaume de Souilly, l'élu de Villejuif. Bonjour, docteur et le professeur. Comment ça va?
Ça va très bien, mon cher Adil.
Bah, écoutez, je vous lance tout de suite pour ne pas perdre de temps, pour vous laisser un peu plus de liberté, justement. Hein, la liberté, vous êtes très attaché à la liberté d'expression, vous aussi, docteur?
Ah, tout à fait, comme tout citoyen français normalement constitué.
Hommage national, RN, bref, vous passez tout en revue, c'est parti, c'est maintenant, c'est vous.
Eh ben écoutez, mon cher Adil, le Front républicain a progressivement perdu tous ses cheveux, s'est élargi, dégarni, puis s'est étrangement muet en arc républicain avec Elisabeth Borne. Puis, lui est arrivé ce qu'il arrive à tout arc, à force de tirer sur la corde, celle-ci a cassé. Ça s'est probablement produit sur le vote de la non-loi sur l'immigration, dont, à moins d'être juriste, on ne sait plus ce qu'il en reste, tant le Conseil constitutionnel, maître coiffeur, lui a refait une coupe pour l'hiver. Désormais, pour notre Premier ministre, Gabriel Attal, l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Et c'est tout de même incroyable pour tous ceux, dont moi, qui avaient appelé à voter pour Macron, espérant faire barrage au FN, de voir que ces 7 années ont fait plus pour la normalisation du RN que tout ce qu'a pu faire le FN depuis sa création pour s'imposer comme parti de gouvernement. L'arc républicain, ce n'est pas forcément un hémicycle, l'histoire nous apprend tout de même qu'il arrive quand même que des partis fascistes, que des partis obscurantistes puissent être élus. Et il faut bien se garder de croire que la France en soit à l'abri. Pour mémoire, je vous rappelle que Hitler est arrivé par les urnes. Car si on m'avait dit, il y a 2 ans, que le RN marcherait contre l'antisémitisme, à l'époque, j'aurais bien ri. En tant que médecin, j'espère dans la guérison.
Mais
je sais ce qu'est la rechute. Une autre décision est intéressante cette semaine. Le Conseil d'État vient de sommer l'ARCOM de mieux contrôler la pluralité sur CNews.
Bah on en parlait justement.
C'est une bonne chose, car quand on écoute 5 minutes de n'importe quel talk show de la chaîne, on voit soudain apparaître sur son corps des pustules, comme si l'on avait dormi dans un lit infesté de punaises. Ils vont devoir élargir leur panel d'invités, et ce serait amusant de venir de temps à autre sur leur plateau pour y apporter un peu de contradiction, pour rompre avec ce magnifique unanimisme obscurantiste. Et cette décision vaut désormais pour toutes les chaînes, mon cher Adil, y compris la vôtre. Et j'attends avec joie et impatience que vous donniez enfin la parole à Éric Zemmour, qui ferait un excellent chroniqueur dans votre émission Un coin neuf avec Éric Zemmour. Imaginez que ça aurait de la gueule quand même. On aurait au moins enfin quelqu'un qui s'exprime en bon français sur ce plateau et qui redresserait la ligne morale. Ça nous ferait du bien. Aujourd'hui, pour finir, c'est l'hommage national rendu à Robert Badinter, ce garde des Sceaux qui a réussi à faire abolir la peine de mort dans un pays qui n'y était pas favorable, sous un président qui fut lui aussi, en son temps, garde des Sceaux, François Mitterrand, et qui n'avait jamais, jamais validé une demande de grâce pour les condamnés pendant la guerre d'Algérie, comme quoi la guérison peut être possible.
Merci et bravo pour ce billet d'humeur, mon cher docteur Majid Seoussine. Prenez soin de vous, surtout.
Bah écoutez, je fais très attention, j'ai ma petite écharpe.
Et bien écoutez, à la semaine prochaine avec joie et bonheur.
Plaisir partagé.
C'était le billet d'humeur de El Professeur, le docteur Majid Seoussine. Qu'est-ce qui vous fait sourire, Guillaume Dessouy ?
Moi, j'aime l'humour de médecin et j'aime.
Je sais que vous êtes fan de lui, ouais. Vous aimez bien. Non, mais il est bon.
Ouais, il est bon.
Mmh. Mais je sais que beaucoup le suivent. Hein. Mmh. Il est toujours là, d'ailleurs, le docteur, non ? Ou pas ? Il est toujours là. Et s'il est là, on le récupère. Vous êtes toujours là ?
J'ai pas tellement l'habitude qu'on m'apprécie.
Oui, mais qu'est-ce que vous dites à tous celles et ceux qui vous suivent, qui vous disent bravo justement ?
Moi, que je les aime tous, que je suis pas sûr de mériter d'être autant d'attention.
Ouais, docteur, on se fait une grève à l'hôpital.
C'est une grève à l'hôpital. Écoutez, c'est le syndicaliste qui vous parle. Regardez, c'est le syndicaliste. Allez, merci docteur, je vous libère. Merci docteur, à bientôt. Merci Sabrina Loury.
Merci. Alors n'oubliez pas, chers auditeurs et auditrices, vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales.
Vous avez raison de le rappeler.
Voilà, je le rappelle parce que bientôt une élection arrive et qui sait.
Exactement.
Le RN est très très devant, va falloir contrer tout ça.
Jimmy Dalidou.
Bisous et évitez de prendre le train ce week-end. Et le 8 mars, grève féminine et les agriculteurs qui commencent leurs actions à soutenir.
Guillaume Dessouy, à bientôt.
Merci Adil, merci aux auditeurs, à bientôt.
Merci à Solal à la réalisation, merci à Bilal Nedman. Bilal Nedman qui prend le contrôle. J'ai dit merci à Bilal Nedman, n'importe quoi. Merci à Solal et bienvenue à Bilal Nedman qui prend le contrôle avec Time Sport. Puis Vanessa à 21h, Kim demain matin. Alors à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on dit ?
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.